le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc ce soir, on reçoit Olivier Joly de Terre de Liens.
Oui, c'est ça, Terre de Liens, oui. Un mouvement citoyen qui s'occupe d'accès à la terre pour les paysans.
Donc on va peut-être faire un petit peu, tu vas nous expliquer peut-être un petit peu les origines, comment ça a été fondé, dans quel but, quel objectif, et puis un petit peu justement toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec les terres agricoles en ce moment.
Ouais, paysans, Terre de Liens, c'est un mouvement donc qui s'occupe des paysans depuis maintenant 10 ans. C'est un mouvement citoyen qui est basé avant tout sur la mobilisation des personnes et puis leur participation financière via la collecte d'épargne pour acheter des fermes. Ça, c'est en gros ce pourquoi Terre de Liens est connu le plus aujourd'hui, mais on fait pas que ça. Alors, avant tout, Terre de Liens, c'est un mouvement associatif, des associations dans chaque région aujourd'hui en France. Par exemple, on est 450 adhérents, militants, bénévoles sur Terre de Liens Rhône-Alpes, qui nous occupons justement de l'installation de paysans en agriculture biologique et en agriculture de proximité. Ça a été fondé à l'origine sur un constat simple, c'est que bon nombre de paysans, futurs paysans, qui veulent s'installer, quoi, un projet d'installation qui peut à la fois combiner un projet, on va dire, plutôt professionnel et aussi un projet de vie, retour à la campagne, une certaine qualité de vie, et bien ces gens-là n'ont pas les moyens financiers pour
de s'installer, d'acheter
pour s'installer,
la terre.
Ouais, pour accéder à la terre. Pour une bonne et simple raison, c'est que aujourd'hui, d'une part, la propriété fait que soit on est fils de paysan et donc on hérite la terre et on peut s'installer, soit on l'est pas et dans ce cas-là, il faut l'acheter. La terre, ça coûte cher. Les bâtiments pour devenir paysan, pour élever par exemple des animaux, ça coûte encore beaucoup plus cher. Et donc ces gens-là doivent renoncer à leur projet d'installation ou alors partent sur des projets vraiment un minima où ils sont en galère pendant pas mal d'années. Autre option pour eux, c'est de s'endetter, d'aller voir leur banque et de leur demander s'ils veulent leur prêter 100, 150, 200 000 euros qu'ils vont devoir rembourser
sur des années et des années,
sachant que les revenus sont pas importants. En fait, ce qu'on voit sur l'agriculture qu'on voit moins sur d'autres métiers, c'est que les gens ils rognent sur leurs propres revenus pour rembourser la banque et ils continuent des années et des années comme ça, quoi. Alors ils vivent avec un bout de jardin, 3 lapins et 2 poules, mais c'est pas une solution.
Oui, ils s'en sortent parce qu'ils sont quasiment autonomes pour ce qui est viande et légumes, mais ils se sortent pas de salaire en fait.
Ils habitent sur place, donc ils sont à peu près autonomes de ce côté-là. Par contre, ils sortent pas de salaire pendant des années. Par exemple, sur un département comme l'Isère, je crois qu'il y a 20 à 25% d'agriculteurs qui sont au RSA, mais pas par choix, quoi. C'est pas au RSA parce que c'est leur situation qui le fait, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc j'ai parlé de la motivation d'origine, et par rapport à ça, les fondateurs de Terre de Liens se sont dit peut-être qu'il faut aller vers un mode d'action qui soit plutôt collectif, hein, sur la réappropriation collective de la terre, pas forcément dans un objectif de lutte sociale ou de choses comme ça à l'origine, mais c'était plutôt dire on va aller chercher des citoyens, des consommateurs. C'était l'époque aussi où naissait le mouvement des AMAP.
C'est un peu le même principe que les AMAP aussi.
On est dans la même philosophie, quoi. Et ils se sont dit, il y a des gens qui sont intéressés par ça. L'alimentation, on sait que ça, c'est au cœur des préoccupations aujourd'hui. Il y a des gens qui sont intéressés. Et bien, pourquoi pas leur demander de participer financièrement. Ça va pas forcément chercher très loin, hein, mais certains, ça sera 100, certains, ça sera 500, certains, ça sera 5000. Mais ils vont apporter cet argent-là à Terre de Liens pour qu'on puisse aller faire l'acquisition de fermes.
Et c'est le nombre qui fera qu'on
peut... C'est le nombre qui fera qu'on pourra acheter des terrains, qu'on pourra acheter une étable et une maison d'habitation éventuellement, et que des gens puissent voir leur projet aboutir et devenir producteurs d'alimentation de qualité, de proximité et dans une logique bio.
Donc on accueille Lydie qui arrive. Bonjour. Oui, donc c'est un petit peu l'idée aussi d'être solidaire, c'est-à-dire que si on veut arriver à trouver des aliments ou des légumes de qualité, c'est vrai que quelque part, bah, c'est aussi il faut accepter peut-être d'investir. On est tous un peu, c'est une chaîne quoi.
Je vais faire un petit détour, mais en fait, quand on va acheter ces produits au supermarché, on le paye pas le vrai prix en fait. On le paye un prix qui correspond à un marché qui a été décidé en gros par les grandes boîtes de supermarchés. Qui font pression sur tout le circuit en amont, hein, et notamment sur les producteurs, pour avoir les prix les plus bas possibles, quoi. Qui explique pourquoi les paysans, aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi vivre. C'est-à-dire que eux, ils produisent, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui fixent des prix, et à la fin, c'est vendu X ou Y euros, et avec ça, les gens, ils n'arrivent pas forcément à se payer, quoi. Ce qui explique qu'il y ait des aides publiques pour compenser ça, la PAC notamment, ce qui amène à nous questionner aussi sur que font les gens de leur argent, quoi. Aujourd'hui, sur un ménage, en moyenne, l'alimentation, c'est 16%. À côté de ça, il y a le logement, évidemment, il y a des frais incompressibles, mais il y a aussi pas mal d'argent qui va dans autre chose, je pense, qui sont peut-être moins fondamentales que l'alimentation. Et donc, ce mouvement-là, c'est de se dire, bon, bah, plutôt qu'aller faire vos courses au supermarché et tout ça, peut-être qu'il faudrait vous rapprocher des producteurs, limiter les intermédiaires et les gens qui en profitent au passage. Alors,
Oui, parce que par contre, il y a des intermédiaires qui vivent bien.
Vivent bien, et puis bon, ils ont trouvé un credo, voilà, c'est humain quelque part. Mais rapprochez-vous des producteurs, vous payerez pas forcément plus cher d'ailleurs que ce que vous payez au supermarché, par contre eux, vous leur permettrez de vivre de leur métier. Et nous, du côté de Terre de Liens, ce qu'on vous propose, c'est non seulement ça, mais c'est d'aller encore plus loin, c'est-à-dire participer à l'investissement, à la mise de départ, pour faire en sorte que les gens qui vont produire votre alimentation, ils puissent commencer leur activité sans avoir à s'endetter jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, on est sur de l'épargne, on est sur de l'investissement. C'est pas un don, hein, on n'est pas dans une logique, j'allais dire misérabiliste, où on fait la quête pour donner 100 euros ou 200 euros au gars. C'est un investissement qu'il n'a pas remboursé parce qu'il ne vient pas propriétaire. C'est Terre de Liens qui devient propriétaire collectivement. Il y a personne en particulier à Terre de Liens qui est propriétaire d'un bout de terrain, quoi. On est tous ensemble propriétaires de toutes les fermes de Terre de Liens en France. Et le paysan, lui, il s'installe.
Lui faites un bail.
On lui fait un bail, il devient locataire, donc il paye un loyer qui est réglementé par l'État de toute façon, donc qui est plutôt bas, hein, par rapport à d'autres loyers qu'on peut voir dans d'autres domaines. Par exemple, un hectare de terre agricole sur le Rhône, ça va aller à vers 100-120 euros par an, quoi. Voilà. D'accord. Donc on est sur des tarifs qui sont relativement modiques et qui lui permettent de développer son activité sereinement, sans avoir cette pression de la banque qui va lui demander chaque année de rembourser 10 000, 15 000, 20 000 euros. Et lui, il pourra vivre après sur ce qui va lui rester.
Tu disais réglementé par l'État, les loyers, c'est parce que c'est Terre de Liens ou normalement tous ces loyers sont réglementés par l'État?
Ou c'est quelque chose qui existait déjà, un bail rural?
Oui, un bail rural, ça existe depuis très longtemps. Le bail, il est lié à ce qu'on appelle le droit du fermage. Le droit du fermage, c'est un acquis de la résistance. Ça faisait partie du programme commun de la résistance dans les années 40, et donc ça a été, c'est donc devenu une loi en 46 ou 47, quelque chose comme ça, qui avait pour volonté de fixer un peu les règles du jeu entre des propriétaires et des paysans qui étaient vraiment dépendants par rapport aux propriétaires. Et c'est l'exemple d'un fonctionnement plutôt très administré. C'est-à-dire que c'est très régulé. Il y a 100, 200, 300 pages, je ne sais plus, dans le code rural de règlement qui définit les relations entre le propriétaire et son fermier. Il y a un tribunal spécifique qui règle les litiges entre un paysan et son fermier. Et donc, chaque année, la préfecture édite, sort un arrêté qui nous dit un hectare, ça vaut tant, ça vaut 100 euros, ou cette année, ça vaut 1% de plus, mais bon, voilà, ça sera 101 euros. Elle nous dit pas, faites ce que vous voulez, et puis le propriétaire, il vous la met à 1000 ou plus cher.
C'est un petit peu l'équivalent de quand on paye son loyer, ou avec l'indice INSEE, tous les
voilà, ans, c'est réglementé.
C'est réglementé.
Alors ça, c'est théorique. Ça, c'est théorique parce que il y a plein de propriétaires qui jouent pas le jeu et qui, d'année en année, augmentent leur loyer, quoi. Voilà. Après, un paysan, il peut faire le choix de le contester et de pourquoi pas aller devant le tribunal, ce qu'on appelle le tribunal paritaire des baux ruraux. Bon, après, si on veut se brouiller avec son voisinage, parce que le propriétaire, bien souvent, c'est le voisin, ouais, c'est, on faut aller vers ça, quoi. Mais c'est pour oui, ça que bon, il y a une tendance de fond qui aujourd'hui fait que on va progressivement vers une augmentation des prix. Mais c'est, le principal problème, il est pas là. Le principal problème, il est en partie d'une part lié à l'urbanisation, c'est-à-dire que on a des villes qui grignotent progressivement leur espace rural autour. On considère que Léon, c'est pas Terre de Liens, hein, c'est Léon en général. On considère que l'espace rural, la terre agricole, c'est vide. Donc on peut construire dessus. On pense pas que c'est d'alimentation, quoi.
Surtout qu'à la base, c'est des terrains qui sont pas très chers, donc ça vaut le coup pour les rendre constructibles.
Alors c'est pas très cher, hein, un terrain agricole. Voilà, sur le Rhône, un hectare de terrain agricole, on l'achète à 5 000-6 000 euros, quoi, pas plus. Par contre, le jour où ça devient constructible, parce que des élus ont décidé que la zone elle doit changer, voilà, et bien là, c'est le jackpot, quoi. C'est multiplié par 100, multiplié par 200, et là, les propriétaires, ils peuvent pas résister, évidemment.
Ce qui fait que un agriculteur qui va se mettre à la retraite, il va peut-être, au lieu de penser à donner son exploitation ou passer son exploitation à quelqu'un d'autre, plutôt le rendre constructif si c'est possible, parce qu'il y gagne.
Un agriculteur à la retraite qui va toucher 700 euros par mois, à peu près, c'est ça, une retraite agricole. Et entre faire le choix de poursuivre avec un jeune paysan qui va lui payer un fermage très modique, hein, quelques centaines, voire 1000 ou 2000 euros par an, et quelqu'un qui lui propose de payer 200, 300, 400 euros le mètre carré, je pense qu'il va pas réfléchir très longtemps, quoi. Il va se dire, il y en a qui font ce choix militant, là. Mais il y a quand même l'immense majorité qui va faire le choix de se tourner vers un promoteur immobilier qui voudra le terrain. Ouais, c'est, je dirais pas que c'est normal, mais tant qu'il y aura une réglementation aujourd'hui qui fait que le passage de terre agricole à terre constructible n'est pas plus contrôlé que ça et n'est pas imposé.
C'est
taxé.
Une décision, c'est au niveau de c'est au niveau de l'urbanisme, au niveau du maire en fait.
Alors le choix de passer d'agricole à urbanisable, c'est au niveau du maire. Par contre, c'est l'État qui peut décider de taxer les plus-values, par exemple. Il y a rien qui justifie le fait qu'une terre agricole au 1er janvier prenne
que ça soit le jackpot
dans l'année, alors que la terre agricole elle a pas bougé, est toujours pareil, quoi. C'est juste un acte administratif qui a fait que la terre agricole devenait beaucoup plus chère. Et donc la logique, ça serait que l'État taxe beaucoup plus les plus-values liées à ce changement d'affectation des terres, de façon à ce que à calmer un peu les gourmandises autour de ça, quoi, et de faire en sorte qu'il y a un frein autour de l'urbanisation. Alors on voit aujourd'hui les élus qui commencent à réfléchir pas mal et à se dire, ah oui, on est peut-être allé un peu loin dans les dernières années, il faut qu'on soit beaucoup plus modéré sur notre consommation d'espace.
Après, c'est vrai qu'il y a des communes qui peuvent être un petit peu en marge de grandes villes qui deviennent du coup des zones dortoirs avec des pavillons et des zones
Tout à fait, c'est vrai, mais d'une part les élus ont le choix d'ouvrir des zones constructibles ou de ne pas le faire, hein. Ils ont le choix d'accueillir une nouvelle population ou de ne pas le faire, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Ensuite, ça renvoie aussi à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire on peut aller habiter dans un lotissement en périphérie, faire la bagnole tous les jours. C'est possible. Avoir chacun sa villa, ses tuyas, son chien. Oui, c'est un mode de vie. Mais tout comme je questionnais tout à l'heure la question, notre mode d'alimentation, aller au supermarché, tout ça, voilà. La même chose, hein. Ce mode de vie-là, on va dire le mode de vie un peu occidental de ces dernières années, où les gens ont plutôt envie de quitter les villes pour se mettre en périphérie et avoir son bout de pelouse. Ça a des conséquences sur l'agriculture, sur notre alimentation. Il faut en avoir conscience, quoi. C'est pas juste se payer un petit paradis à la campagne qui deviendra peut-être un enfer un jour quand le pétrole sera beaucoup plus cher. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Et pour revenir sur les communes et les élus dans l'action de Terre de Liens, c'est quoi le type de relation que vous avez? Est-ce que ça devient des gens, des partenaires? Parce que j'imagine que souvent on peut pas faire sans eux, où il y a beaucoup de choses où ça devient compliqué.
Ouais, on peut pas faire sans eux. On est dans une relation qui est un petit peu ambivalente, qui dépend déjà d'une part des territoires et de qui on est en face de nous. Hein. Voilà, on a des gens qui sont motivés par l'agriculture, l'alimentation de proximité. Il y a pas mal de communes, notamment en région Rhône-Alpes, qui se posent la question de mettre leur cantine, par exemple, en alimentation
en
bio,
circuit court.
Donc ils viennent nous voir, on essaie de réfléchir qu'est-ce qui est possible, on essaie de les accompagner là-dessus. Voilà, on voit aussi des élus qui viennent nous voir pour ça. Et puis qui, trois heures plus tard, montent dans une autre réunion avec un avec des aménageurs et vont leur dire que l'environnement, ça suffit et que les règles, ça serait bien que ça s'arrête, quoi. Donc on a aussi des élus qui tiennent un double discours, qui font un peu de greenwashing d'un côté, et puis qu'en face, ils sont aussi sous pression d'un certain nombre de lobbies. Et ça, c'est très courant, quoi. Maintenant, faut pas noircir le tableau. On a quand même un mouvement de fond des collectivités autour d'une préoccupation alimentaire plus importante, au moins locale, au moins sur du local, et puis peut-être sur l'agriculture biologique aussi.
Parce que du coup, par exemple, est-ce que tu as une idée sur le Rhône ou sur Rhône-Alpes, le nombre de fermes dont Terre de Liens est propriétaire actuellement ?
Alors, sur la région Rhône-Alpes, on a 16 fermes aujourd'hui. Hein, donc c'est à la fois beaucoup pour un mouvement qui s'est amorcé sur l'acquisition de terrain en 2007-2008, en 4-5 ans, c'est pas mal, 16 fermes. Maintenant, à l'échelle de la région, 16 ouais. fermes, des fermes, il y en a 80-90 000 en région Rhône-Alpes, donc c'est peanuts. Notre ambition, elle n'est pas de racheter et de rendre collective toute la terre en Rhône-Alpes, parce qu'il nous faudra des décennies, enfin même beaucoup plus. Notre ambition, elle est plus de dire, on fait une opération à un endroit avec un porteur de projet, on l'installe, tout ça, on mobilise des citoyens. Et on profite aussi de ce moment-là pour adresser un signal et j'allais dire faire causer aussi de ces questions-là sur le territoire. Quoi. Quand on va chercher des gens sur les marchés, dans nos réseaux, pour financer un projet d'acquisition, bah nécessairement on cause de toutes ces dimensions-là.
Oui, ça touche beaucoup plus de gens du coup.
On est dans une logique un peu de conscientisation, on pourrait dire quoi. Progressivement sensibiliser les gens à la problématique de l'accès à la terre, à qu'est-ce qu'on fait de notre espace, comment on le gère, que font les élus par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on leur dit aux prochaines élections? Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas d'accord?
Oui, ça concerne pas que la collecte d'épargne, c'est aussi comment ils peuvent infléchir leurs élus sur certaines questions.
Comment ils peuvent infléchir leurs élus sur ces questions-là? Nous, on est un petit peu dans une démarche, on se qualifie d'éducation populaire, c'est-à-dire que on n'est pas un opérateur technique, avec deux salariés dans un bureau, un président, et puis on part. À l'aventure pour aller installer des paysans aux quatre coins de la région, quoi. Notre but, c'est de mobiliser des citoyens qui vont jouer ce rôle-là sur leur territoire pour installer directement des paysans via l'achat de fermes de façon collective, mais aussi pour aller attraper leurs élus lors de réunions publiques sur un plan local d'urbanisme en leur disant là, on n'est pas d'accord. On trouve que au niveau de la gestion de l'espace, ça va pas, ça dérape par rapport à ce qu'on aimerait. Et il faut préserver les terres agricoles, il faut voir comment on peut s'impliquer sur l'installation de paysans sur notre commune, etc. Quoi. L'idée, c'est d'avoir des gens qui soient militants et porteurs de l'esprit de Terre de Liens, et puis plus globalement de la préoccupation alimentaire bio-locale sur chacun des territoires de la région.
passion.
Là, c'était un petit clin d'œil avec Juliette qui nous racontait une vision du retour à la nature. Bon, pas tout à fait le même trip des agriculteurs qui s'installent avec Terre de Liens.
Donc, pour reprendre, parce que c'est vrai que c'est un système un petit peu particulier, on peut peut-être prendre un exemple voire sur un cas. Si tu peux nous expliquer un petit peu.
Oui, vous dire un peu. Ben, en fait, on en a un qui est tout frais, là. Qui a été validé par Terre de Liens il y a 3 jours. Donc c'est du tout récent. En fait, c'est un gars qui bossait dans la logistique depuis quelques années, depuis 7-8 ans là, et puis il commençait à en avoir franchement ras-le-bol de sa vie un peu trépidante, à gérer des camions, des choses comme ça, voilà. Et il se trouve qu'en parallèle, il était saisonnier pour bosser dans les fruits et les légumes, quoi. Les fruits et les légumes bio ou pas, d'ailleurs, je crois. Et un jour, il s'est dit, bon, moi, j'arrête cette vie de fou, voilà, c'est pas ce que je veux, moi, j'ai envie d'avoir les mains dans la terre, de produire de l'alimentation, de vivre au grand air, d'être mon propre patron, quelque part, aussi. Et il s'est mis en quête d'un terrain pour s'installer. Donc, c'est quelqu'un qui est de la vallée du Gier, là, dans la Loire, et donc, il a cherché autour de chez lui. C'est un coin où il y a beaucoup de pression foncière. Le fond de vallée est urbanisé, il y a que de l'habitat et puis des usines. Enfin, ce qui en reste, hein, des usines, et puis les coteaux sur lesquels il y a une forte pression foncière. Et donc, il a attaqué à chercher, je crois que c'était en 2008-2009, il s'appelle Christophe. Il a cherché à partir de 2008-2009 un terrain où s'installer.
Dans un périmètre à peu près.
Voilà, autour de chez lui, dans 20-25 km autour de chez lui. Et il s'est rendu compte qu'il ne trouvait pas de terrain sur ce secteur-là. Il s'est rapproché d'un ou deux paysans pour s'associer, mais ça a pas fait. Et puis donc, il est venu voir Terre de Liens. Alors nous, on est en contact avec lui depuis très longtemps, mais il est venu nous voir avec un site qu'il a trouvé il y a un an maintenant, un peu plus d'un an.
D'accord. Il y a des gens qui viennent vous voir sans site ou...
Ah oui, alors là, des gens, on en voit défiler.
Il y a beaucoup de demandes.
Ouais, il y a pas mal de demandes. On voit sur la région entre 60 et 80 personnes par an, à peu près, qui viennent...
Qui auraient envie de s'installer.
Qui auraient envie de s'installer, ouais.
Alors, après, il y a peut-être des projets plus ou moins aboutis.
Exactement. Mais je reviendrai sur qui vient nous voir. Sur l'histoire de Christophe, donc il a trouvé ce site-là à Vauche, au-dessus de Saint-Étienne, donc pas tout à fait dans la zone où il cherchait, mais bon, voilà. Et on est allé voir ce lieu, hein, pour essayer de voir si son projet pouvait rencontrer le site, hein, parce qu'on n'installe pas tout et n'importe quoi n'importe où. Hein, lui, il a un projet de maraîchage et de fruits.
Il faut que le terrain s'y prête.
Il faut que le terrain s'y prête, qu'il ait les bonnes qualités.
C'était pas une ancienne.
C'était une ancienne ferme, mais qui était plus en. qui n'était plus en exploitation depuis, enfin exploitation, c'est pas franchement le mot qu'on peut utiliser, mais en usage agricole depuis 40 ans. Et on va dire que le propriétaire, il faisait plutôt ce qu'on appelle la rétention foncière, c'est-à-dire
qu'il attendait que les prix montent.
Il attendait que ça passe en constructible pour se faire un max de thunes. Voilà.
Toucher le jackpot.
Toucher le jackpot. Bon. Et puis les années passant, il a accepté de lâcher un petit bout de terrain. Et donc là, il y avait une ferme, essentiellement une maison d'habitation avec une grange autour, et puis 2,5 hectares. À l'origine, il n'y avait qu'un hectare. Christophe est allé négocier pour étendre un petit peu ce terrain. On a pu obtenir 2,5 hectares. Et donc, il y a eu tout un travail, on va dire, ce qu'on appelle d'instruction en interne de Terre de Liens, pour voir si le projet pouvait correspondre, pour voir aussi si le projet correspond à ce que fait Terre de Liens, notamment agriculture biologique, agriculture de proximité. Il est aussi dans une démarche citoyenne, volonté de parler de son projet et d'intéresser les scolaires, les familles à la question
d'accord,
de l'agriculture.
D'accord, peut-être après aller faire des interventions pour expliquer son parcours, ce qu'il a fait, des choses
voilà,
comme ça.
Voilà, il fait ça aussi.
Regardez aussi si c'est viable, si c'est assez grand pour qu'ils puissent en vivre.
Voilà, alors nous on regarde aussi si c'est viable, si ils s'embarquent pas dans une galère. Voilà, donc on met tout ça à plat. On regarde si le porteur de projet est en adéquation avec nous aussi, s'il est d'accord avec, en gros, le deal de départ. Et puis si tout ça va bien, eh bien on fait une première validation au niveau de Terre de Liens national, puisque c'est pas localement que c'est décidé, c'est au niveau national avec des gens de chaque région, de façon à ce qu'il y ait un petit peu d'impartialité, parce que c'est vrai que nous, vu qu'on est dessus,
connaîtrais les gens, et
ouais. Voilà, c'est compliqué de leur dire non, quoi. Et donc on a amorcé la collecte fin octobre 2012 là.
Et vous aviez un prix de vente alors, vous saviez.
Alors on avait un prix de vente, le prix de vente qui était de 190 000 euros. Voilà, fallait trouver 190 000 euros avec des délais qui étaient assez rapprochés parce que le vendeur, en gros, il nous donnait 3-4 mois pour traiter de ça. Et puis sinon, c'était ça partait chez un autre quoi. Il y avait la SAFER sur le coup. Donc la SAFER qui est en gros l'organisme en charge de normalement réguler le foncier, ils essayent de le faire, ils ont les moyens pour, mais ils n'ont pas forcément toujours l'argent ni la volonté. Mais donc la SAFER était sur le coup, ce qui faisait que ce site-là devait aller prioritairement à un porteur de projet agricole. Donc c'était nous. C'était Christophe.
Et la SAFER, comment ça se passe? Ils peuvent abonder, en fait, par exemple, prendre une partie des 190 000 euros?
Non, la SAFER, ils n'ont pas les moyens, et ils s'en donnent pas les moyens non plus, de financer ce type de projet-là. Ce qu'ils peuvent faire, c'est signer, là, pour le coup, ils ont signé un contrat avec le propriétaire qui donnait un certain nombre de mois de délai.
D'accord.
Pour pouvoir traiter avec un porteur de projet agricole. Et ce délai passé, ça repartait, j'allais dire, sur le marché commun. Et ça pourrait être un artisan ou n'importe qui vienne
ça,
racheter.
Ça bloque
quoi.
Et ça vous donne
ça protège,
quand même quelques mois,
ça protège les terres agricoles et ça les oriente plutôt vers des agriculteurs, mais sur un délai qui est assez court, quoi. Et un projet agricole, on ne construit pas comme ça en 3 semaines. Hein. Il faut souvent 1 an, voire plus, pour aboutir. Donc, ce qui fait qu'on a des délais qui sont quand même un peu courts parfois. Donc, on avait 3-4 mois, en gros, pour régler cette question de la collecte. C'est trouver ces presque 180 000 euros. La règle à Terre de Liens, c'est que localement, on doit trouver 75% de la somme, et le reste, c'est Terre de Liens global qui vient apporter le reste. Donc, on ne doit pas trouver la totalité. Et là, il fallait trouver 75% du montant d'acquisition, plus quelques frais et quelques travaux, quoi. Et donc, Christophe a pris son bâton de pèlerin, moi, je l'ai accompagné aussi un petit peu, sur les marchés, les foires, dans son réseau, tout ça, pour trouver des gens qui auraient l'envie de contribuer à lancer son projet. Et eh bien, on était plutôt surpris, mais ça a très très bien marché sur ce projet-là, puisque on a trouvé 170 000 euros voilà, en 2 mois et demi, quoi.
D'accord.
Avec lui.
Et avec combien de personnes?
Avec 160 souscripteurs. Voilà, donc ça demande du boulot, mais aujourd'hui on a des moyens, notamment tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, pour diffuser l'information. On voit que ça démultiplie vraiment la diffusion de la demande, les gens se mobilisent, on arrive à toucher les écolos, les paysans, etc., et mettre l'argent sur la table, quoi.
Et du coup, c'est assez varié. Enfin, il y a des gens qui peuvent mettre 100, 200 euros et d'autres
c'est
qui peuvent
très
mettre des milliers d'euros. Ouais.
160 souscripteurs, on est à une moyenne de 1 000 euros à peu près, mais ça va de 100 euros à 10 000.
D'accord. Voilà.
Donc il y a des gens qui mettent 10 000 euros, ils sortent leur argent de leur livret A, ils mettent tout sur cette ferme. Et puis on a des gens qui mettent 100 euros, soit parce qu'ils découvrent, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais pour eux c'est plus symbolique. On a des chômeurs qui viennent nous voir, nous disent on n'a pas de sous nous, mais par contre on prend une part 100 euros. Voilà, c'est symbolique, mais ça compte autant que quelqu'un qui met 10 000 euros. Quoi. C'est autant essentiel pour nous d'avoir 160 personnes que d'avoir 160 000 euros. Quoi. Ça crée un mouvement autour de cette ferme qui est quand même considérable. Quoi.
Ça fait autant de gens qui sont convaincus et qui connaissent.
Voilà, qui connaissent, qui vont en parler autour d'eux.
Qui vont en parler autour d'eux, dans leur famille.
Qui se sentent quelque part un peu propriétaires et donc responsables collectivement de cette ferme-là, qui vont s'y intéresser. Alors après, il y en a qui n'en entendront plus parler parce que ils ont apporté leur contribution, ils sont contents et puis tout va bien. Puis il y en a d'autres qui s'y impliqueront pleinement pour faire des travaux, pour installer des serres, pour venir donner un coup de main. Voilà, notre rôle à Terre de Liens ensuite, c'est d'animer ces 160 personnes, quoi. C'est créer des événements sur la ferme avec Christophe pour qu'ils puissent se réunir et puis que ça crée aussi une solidarité et puis que ça
donc
soit.
Donc c'est ça de garder un lien en fait entre ceux qui ont investi et la ferme.
Ouais. On n'est pas juste sur une opération coup de poing là. Pendant 3 mois on y va et puis après on donne plus de nouvelles.
Une fois qu'on a acheté le terrain et que Christophe arrive dans.
Christophe va arriver au mois d'avril là et.
Tout n'est pas fini justement.
Tout n'est pas fini. Non, là ça commence pour lui surtout parce que la collecte à côté de ça c'était facile je pense. Maintenant il y a tout le travail d'installation, de mise en route, donc il y a pas mal de boulot. J'allais dire nous notre boulot de notre côté c'est de mettre des gens en route autour de lui, créer des solidarités, pourquoi pas des gens qui vont devenir consommateurs, je pense aussi. De sa ferme, il va faire des fruits, des légumes bio, il répond à une demande locale, les gens ils en veulent, et ben allons-y. Donc ça c'est ce côté-là, ça c'est très positif. Et puis pour Terre de Liens, c'est aussi un réseau de personnes qui vont peut-être aussi accompagner d'autres porteurs de projets sur place et qui vont démultiplier l'action, quoi. Voilà, là c'est moi en tant qu'animateur qui suis allé sur place pour monter ça avec Christophe, mais là l'espoir c'est que le mouvement il démultiplie sur place, quoi.
Donc les gens qui ont été intéressés vont pouvoir rameuter un petit peu d'autres personnes.
Ils vont rameuter d'autres personnes et puis on va sans doute faire une petite inauguration festive au printemps là, pour montrer ce que c'est, quoi.
Et du coup, par contre, il a acheté du matériel, il y a des choses qu'il a.
Alors Terre de Liens finance pas tout, hein. Nous on est plutôt sur l'immobilier, donc la terre et le bâtiment. Après lui, Christophe, il finance un peu de matériel, ses semences. Il va installer l'irrigation, donc ça c'est lui qui va s'en occuper, ses serres aussi. Voilà. Mais si on regarde son budget d'investissement, s'il avait dû tout acheter par lui-même déjà, il n'aurait pas pu, ça c'est clair. Et l'investissement de Terre de Liens, donc l'investissement des 160 personnes, ça couvre 80% du total, quoi.
D'accord.
Quasiment. Donc
oui, donc c'est vraiment la terre.
Ça lui permet de démarrer dans de très bonnes conditions. Maintenant, il faut qu'ils produisent, qu'ils vendent, et puis normalement, ça devrait bien marcher.
Il y a un accompagnement pour trouver justement des clients ou des réseaux.
Alors nous, on fait pas ça directement parce qu'on essaye de pas trop se disperser. On a déjà de quoi s'occuper. Puis la question foncière, c'est déjà du boulot à décortiquer à chaque fois sur chaque projet. C'est un vrai travail d'analyse la situation. Parce que c'est un domaine qui est très réglementé. Et donc il faut un peu tout décortiquer. On essaye par contre de les renvoyer vers des organisations un peu partenaires, quoi. Sur la commercialisation, on peut l'envoyer vers le réseau des producteurs bio, quoi. D'accord. L'ARDAB sur le Rhône et la Loire, qui pourront l'orienter soit vers des AMAP, des magasins de producteurs. Nous on est en lien avec les AMAP, donc là-dessus il y a pas de souci. Chacun a son boulot quelque part et chacun sa spécialité.
Mais il a déjà du coup un carnet d'adresses.
Il a un très bon carnet d'adresses. D'ailleurs, si la collecte a si bien marché, c'est qu'il avait déjà un très bon carnet d'adresses à l'origine. Ouais.
Tu disais d'ailleurs que ça avait bien marché. On dirait aussi que tu nous as présenté une opération idéale. Est-ce que ça se passe vraiment toujours comme ça aussi?
Alors ça, c'est le projet un peu idéal. Ouais, c'est vrai, dont on est content parce que tout va bien pour le moment. Puis après, on a d'autres projets où ça marche moins bien, soit parce que la collecte est compliquée. Soit parce que y a des problèmes sur le site, par exemple des bâtiments qui sont à reprendre vraiment, dans un état compliqué.
Où t'as des travaux,
ça c'est un peu lourd. Puis c'est arrivé aussi que parfois on est à gérer des soucis un peu avec nos fermiers, enfin avec les gens qu'on est installés. Soit pour des questions relationnelles, pas forcément avec nous, mais par contre ils s'entendaient pas avec leur associé ou choses comme ça, et donc ça a éclaté, ça arrive, hein, ça fait partie de la vie. Soit aussi parce que les mecs, même en ayant nous investi, ils n'arrivaient pas à s'en sortir pour des questions plus techniques en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à maîtriser au niveau de leur travail au quotidien, peu de production.
D'accord.
Ou une terre qui était très pauvre. Et donc, quand on a galéré un an ou deux ans, qu'il y a du matériel à changer, qu'il n'y a plus de fonds pour remettre dans la machine, quoi. La question se pose, est-ce qu'on continue ou est-ce que c'était finalement pas. On s'est pas trompé, quoi. Voilà. Ça arrive, hein, là-dessus. Je dirais qu'il y a autant d'expériences que de fermes qu'on rencontre et de personnes qu'on a installées, quoi. Il y a des très bonnes expériences et puis il y a eu des expériences un peu plus délicates qu'on essaye aussi de réguler et d'améliorer avec les gens, les militants qui sont sur les territoires, puisqu'on essaye de faire en sorte que autour de chaque ferme, il y ait un groupe de gens qui ont bien souvent participé à la collecte et puis qui sont en adéquation avec le projet de Terre de Liens.
Et les gens qui viennent vous voir parce qu'ils recherchent à s'installer, est-ce qu'il y en a, justement, ça peut très bien se passer bien après parce qu'ils n'avaient pas d'expérience et qu'ils ne savaient pas ce qu'allait vraiment se.
Alors, justement.
Quelle était vraiment la vie d'un agriculteur?
Dans les 60 à 80 personnes qu'on voit chaque année, il y a de tout. Hein. Il y a, je me souviens de quelqu'un qui a appelé, c'était quelques jours avant après la rentrée scolaire. Parce que il avait ras-le-bol de sa vie en ville et il voulait aller à la campagne, mais il n'avait pas plus d'idées que ça, ni de formation, ni de ce qu'il voulait faire. Bon, ça c'est l'exemple un peu extrême, mais on a tout le panel des gens qui n'ont pas fait de formation ou un petit peu, des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc nous on essaie d'orienter ces personnes-là vers les organismes qui sont en capacité de les accompagner, les former, ou aussi de leur donner un petit peu d'expérience. On est très réticent à installer des gens qui, des gens qui sont pas formés. On n'ira pas jusqu'au bout avec eux parce que c'est aller au casse-pipe. Et des gens qui ont très peu d'expérience, on essaye de se donner les moyens qu'ils soient bien accompagnés au moins au début, de façon à ce qu'on les envoie pas justement dans une galère, quoi. Il faut pas idéaliser l'agriculture, hein, je pense. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont fait 3 carottes et 2 salades dans leur jardin, s'imaginent qu'ils vont être maraîchers demain matin. L'agriculture, c'est une activité vraiment professionnelle avec des besoins de formation et de qualification, des savoir-faire qui se transmettent aussi. Et il faut passer par une case de formation, il faut passer par une case un peu d'expérience aussi avant de pouvoir se lancer tout seul. Parce que même si il y a les copains de Terre de Liens, il y a les gens qui ont apporté, il y a le réseau autour, quand même au quotidien, les gens ils sont seuls sur leur ferme pour travailler, quoi. Et quand il y a des galères, c'est pas nous qui allons faire pousser leurs carottes et leurs salades.
Justement, tu disais tout seul, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où des gens, ils cherchaient, mais ils auraient bien voulu s'associer et que vous avez pu se mettre en contact plusieurs personnes qui s'associent et qui s'installent?
J'ai pas d'expérience directement là en Rhône-Alpes, mais ça a dû se faire sur d'autres régions. Par contre, on a aussi des collectifs qui viennent nous voir. Des collectifs qui ont souvent ce qu'on appelle les projets ruraux, c'est-à-dire un projet
d'habitat collectif aussi,
d'habitat collectif aussi. Enfin après on a toutes les nuances possibles, souvent il y en a 2-3 dans le groupe qui veulent faire de l'agriculture et puis 2-3 qui sont dans la culture, dans l'animation locale, dans l'artisanat, et sur le site de la ferme ils mènent toutes ces activités. D'accord. En parallèle, quoi. Alors ils habitent pour certains ensemble, pour d'autres ils habitent pas ensemble, mais en tout cas on essaie de les accompagner. Là aussi, sur les projets collectifs, nous on est assez vigilants, non pas par un a priori de départ, mais parce que il y a des fonctionnements qui sont internes au collectif, qui sont parfois
qui font que ça peut exploser en fait, c'est ça.
Voilà, que ça peut exploser parce qu'il y a une personnalité forte, dans le groupe, parce qu'on a l'impression que tout le monde n'est pas complètement en adéquation avec les choix qui sont
faits. Là, c'est vrai que ça peut être très intéressant comme projet, mais tu t'ajoutes un petit peu des difficultés. T'as à la fois le problème de s'installer comme agriculteur et le problème d'habitat groupé. C'est une problématique en soi d'arriver
à faire
vivre un groupe en habitat groupé, quoi.
On s'occupe pas directement de l'habitat groupé. Ça, c'est leur affaire. On peut les rediriger vers d'autres structures comme Avicop ou des choses comme ça qui vont les aider à organiser leur projet d'habitat groupé. Par contre, nous, on le prend en compte. On essaye de voir quelles répercussions ça va avoir sur la partie agricole. Mais bon, il faut pas noircir le tableau. Le collectif, ça, c'est le gros avantage de pouvoir serrer les coudes.
Oui, de donner des coups de main, voilà, de un petit peu de main
d'un atelier à l'autre. Voilà. Par contre, ça ajoute une contrainte, c'est-à-dire que si le relationnel y suit pas, et ben, ça va rejaillir sur l'activité.
Et le Christophe en question était arrivé avec un terrain qu'il avait repéré. Mais est-ce que vous faites pas aussi du repérage et des gens qui viennent?
Alors, on essaye de faire un peu de repérage ou du moins de collecter les informations. Il y a d'autres structures, mais plutôt conventionnelles, qui le font, notamment les chambres d'agriculture.
Il y a des gens qui vous appellent pour vous proposer des terrains. Ça se fait,
un
ça
petit peu,
ça,
mais pas beaucoup, parce qu'on n'est pas hyper bien identifié par les agriculteurs classiques, en gros. Et puis aussi parce que nous, on n'arrive pas à suivre et à coordonner tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à animer la mise en relation d'offres et de demandes de terres à un endroit donné, à un même moment. Enfin, souvent, nous, on a des porteurs de projets qui veulent faire du maraîchage, un endroit, quoi. Par contre, ils veulent pas aller sur le truc qu'on leur propose à 50 km, parce que leur projet, il est là, il est pas ailleurs. Et c'est légitime. Et donc, c'est assez complexe d'animer cette mise en relation, et nous, clairement, on n'a pas le temps. On s'occupe déjà des porteurs de projets qui viennent avec un site pour travailler vraiment là-dessus et voir si ça concorde, quoi. Et si ça marche, nous, on peut aller vers un projet d'installation avec une collecte. The sky is gray.
And it's been a tear rolled down my nose.
Oui, donc on continuait pendant la musique à discuter entre nous. Et donc tu nous expliquais que au départ Terre de Liens c'était de la collecte un petit peu générale. Donc vous aviez eu des fonds pour acheter et qu'en fait vous êtes arrivé pas par choix mais comme ça par manque de fonds qui arrivaient pour la collecte à justement collecter de l'argent sur un projet.
Ouais. En fait peut-être qu'on peut redonner quelques chiffres pour resituer. On a collecté depuis 2008 pas loin de 30 millions d'euros, donc c'est quand même assez considérable. Sur ces 30 millions, il y en a une partie qui va en réserve, c'est-à-dire ça nous permet de financer aussi ceux qui reprennent leur épargne, parce que pour X ou Y raison, mais parfois dans la vie, on a besoin d'argent et bon, les gens ils reprennent leur épargne. Alors ils la reprennent pas comme ça au distributeur, hein, évidemment, ça prend un peu de temps, c'est pas si souple que ça, mais ils ont la possibilité. Donc on a quasiment un quart, je crois, en réserve, hein, de ces 30 millions. Et puis donc le reste, ça a servi à acheter des fermes. Et on s'est rendu compte que ça avait un effet pervers, c'est-à-dire que on mettait en gros l'argent sur la table, on achetait les fermes, le paysan il se mettait en route. Et puis ça perdait un peu de son sens par rapport à cette philosophie de Terre de Liens, où c'est de mettre en relation des gens qui apportent un petit peu de leur argent et puis de leur bonne volonté et puis un paysan, quoi. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des fermes où il y avait quasiment personne autour. Et puis un paysan qui s'est occupé de son activité économique et puis basta. Et donc la baisse de la collecte de ces dernières années qui est liée d'une part à ce qu'on appelle la crise entre guillemets et puis aussi au fait qu'on avait déjà touché le premier cercle de militants et que maintenant il fallait aller chercher des gens un peu plus éloignés, cette baisse de la collecte nous a fait changer de fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on s'est dit bon, on va plus faire comme ça, on va plus faire le chèque pour acheter la ferme et installer le paysan. On va faire l'inverse, on va monter le projet, on va lancer la collecte, et puis quand on a la collecte, on va acheter des fermes.
Et donc le paysan est beaucoup plus impliqué dès l'inverse.
Le paysan, en fait, il est beaucoup plus impliqué,
il est entouré aussi.
Il sait que pour lui, il faut qu'il s'y mette avec nous, parce que sinon on va pas y arriver. Et puis les gens sont beaucoup plus sensibles, parce qu'ils disent, moi j'apporte peut-être que 100 euros, mais c'est une petite pierre qui va contribuer à...
Et je le connais.
Et je le connais, il est à côté, la ferme, elle est pas loin, je peux aller le voir, c'est beaucoup plus concret, quoi. Ce qui explique aussi pourquoi que sur l'exemple du projet de Christophe à Vauche, là, on est 160 personnes qui soient mobilisées, enfin 160 personnes, 160 familles sans doute aussi derrière, et ça représente une ampleur assez considérable. Donc c'est très contraignant parce que il faut s'y mettre, hein, pendant 3, 4, 5 mois. Après c'est quand même plutôt intéressant d'aller voir les gens pour leur soumettre cette idée-là, parce que c'est aussi une occasion de les sensibiliser et puis de les mettre dans le coup. Mais ça c'est plutôt très efficace en termes de collecte, ouais.
Et puis on dit que c'est un gage aussi de réussite par la suite, parce qu'en plus la personne qui s'installe, elle sait qu'elle s'est un peu engagée par rapport à des gens qu'elle connaît et qui ont donné.
Ouais, ils sont engagés. Et puis ça va créer ce fameux réseau de solidarité dont on parle depuis tout à l'heure, tout autour de la ferme. Voilà, on part pas avec 3 personnes autour de la ferme, on part avec 160 personnes, quoi. Ça c'est quand même très positif. Et puis ce travail de collecte à Vauche, c'était aussi l'occasion de mettre dans le coup la collectivité.
D'accord.
Voilà, aller voir la maire de la commune, la communauté de communes, la région, et tout le monde s'est intéressé à ce projet-là. Et on a recroisé les élus il y a quelques jours là, et ils étaient impressionnés par la mobilisation citoyenne. Donc peut-être que ça débouchera sur autre chose de leur côté qui est lié à ce projet-là.
Ça va les faire réfléchir.
Ça va les faire réfléchir. Ils vont se dire, ah oui, il y a quand même 160 personnes qui sont mobilisées autour de ce projet-là. C'est quand même le signe qu'il y a un mouvement de fond qui n'est pas forcément très visible, mais qui est présent, quoi.
Et puis ça permet aussi... Aussi vous, en tant que Terre de Liens, de vous mobiliser sur d'autres projets, et puis parce que vous savez qu'après, les projets, ils vivent avec leur propre accompagnement.
Ouais, il y a toujours une première phase où il faut mettre en route, hein, voir si le paysan il met en route son activité comme il faut. Nous, il y a une phase où on lui fait un bail. Voilà, il y a toujours un petit temps de lancement.
Et en interlocuteur technique, vous intervenez ou vous, ce que tu disais pour la s'il a des questions vraiment techniques et concrètes,
nous on s'occupe plutôt de ce qui nous concerne, c'est-à-dire le bâti, les terres, tout ça. Et après, on le met en relation avec d'autres acteurs. Et puis après, la ferme, elle vit sa vie avec son environnement de bénévoles, d'apporteurs de financement. Et puis nous, on suit ça de loin et on peut s'occuper d'autres projets.
D'accord. Dans la structure, en regardant un petit peu, c'est vrai que de loin, ça paraît un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs entités en fait. Donc il y a la foncière, il y a la fondation, il y a l'association.
Ouais,
un petit peu.
Et ouais, je vais expliquer rapidement. Il y a un schéma sur le site de Terre de Liens, mais quand les gens cliquent sur le schéma, ils pleurent. Donc, il faut s'y mettre un peu pour vraiment comprendre. Alors je vais expliquer très simplement. En fait, il y a un cœur à Terre de Liens, ce sont les associations, la vie associative. Et Terre de Liens n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas des bénévoles, des militants, des gens qui s'engagent. C'est ça la première motivation. Des gens de tous horizons, hein, les consommateurs, des anciens élus, des paysans, anciens paysans, etc. Des gens qui viennent par l'entrée écolo, des gens qui viennent par l'entrée consommation, des gens qui viennent par l'entrée agriculture, c'est aussi ça la richesse. Donc ça, c'est les associations. Et ce sont ces associations qui font vivre Terre de Liens sur les territoires, qui accompagnent les porteurs de projets. Donc moi je l'ai fait pour Christophe en tant qu'animateur salarié, mais il y a aussi des bénévoles qui le font sur leur territoire. Ce sont aussi ces associations qui construisent des formations, parce que ces gens-là, il faut aussi qu'on les forme. On n'apprend pas forcément naturellement comme ça tous les jours à quoi ça sert une SAFER, le droit du fermage, comment on travaille des collectivités pour monter un projet d'alimentation bio locale. Enfin, tout ça, là-dessus, il faut se former un peu collectivement. Et puis, il y a aussi tout un travail, on va dire, d'animation du débat public. Quand je viens parler de Terre de Liens ici, ça en fait partie, mais aussi d'aller voir les élus.
Et vous organisez des conférences ou des...
Ouais, on fait un peu de ça, voilà, des soirées, une soirée publique. Ça peut être autour d'un film ou ça peut être quelque chose d'un peu plus institutionnel aussi. Ça dépend un peu des fois. Là, on en a fait une en décembre.
Au festif,
ouais. Tout est possible. On a fait une en décembre, là, avec Corabio, donc, qui est la coordination des associations bio, de producteurs bio de la région Rhône-Alpes, où le thème, c'était l'accès aux fonciers bio par les collectivités. Voilà, donc il y avait des élus, des techniciens, etc. Voilà, donc ça, c'est le cœur, les associations. Et puis, il y a deux poumons autour de ces associations. Il y a un premier poumon qui s'appelle la foncière Terre de Liens. Et donc, je parle d'épargne depuis le début, d'investissement. Et bien, ça, c'est la foncière. Et c'est cette foncière qui collecte l'épargne et qui devient propriétaire des fermes, quoi. Qui est en relation avec les paysans qui deviennent nos fermiers. Voilà. Cette foncière, elle a un fonctionnement un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on s'est dit, en fait, si les gens ils investissent, il y a peut-être un jour ou l'autre où il y aura quelqu'un qui voudra devenir majoritaire et donc devenir de fait propriétaire. Quoi. Donc, dans le fonctionnement de la foncière, on a dissocié la propriété, en gros, de ce qu'on appelle les actions solidaires, qui sont en gros les parts, si on veut. Donc là-dessus, les gens ils peuvent se retrouver en assemblée générale et puis décider de l'orientation de la foncière. Par contre, ils n'ont pas le pouvoir de dire ce qui doit se passer sur telle ou telle ferme.
Oui, voilà. C'est pas les parts, elles sont générales et elles sont pas fléchées sur.
Elles sont pas fléchées.
Et jamais ils vont dire on met telle personne à tel endroit ou si là on le vit.
Voilà, voilà, une sorte de comité de gestion dans lequel sont une partie des fondateurs, des représentants des gens qui ont apporté et puis des partenaires. Donc la NEF par exemple, il y a Biocop ou des choses comme ça. Et eux, ils viennent plus définir l'orientation générale de la foncière. Voilà, on a voulu dissocier les deux de façon à ce qu'on ne passe pas d'une propriété collective au service d'agriculture à une propriété collective au service de l'intérêt des gens qui ont apporté. Quoi. C'est ce qui explique aussi pourquoi on a pu faire des choix de non-rémunération, notamment des parts, quoi. C'est-à-dire que les gens, quand ils mettent 100 euros, ils ne sont pas rémunérés à la fin de l'année. Ils n'ont pas 1,5% ou 2% comme leur livret A. Voilà. Parce que, notamment, on ne pourrait pas le faire à cause des loyers qui sont faibles. Quoi. Ou alors, si on prend la logique inverse. Si on veut rémunérer les actionnaires, il faut faire payer le paysan. Quoi. Donc, ça allait à l'encontre de notre logique. Donc, ça, c'est le premier poumon, la foncière. Et puis, le deuxième poumon qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. C'est ce qu'on appelle le fonds de dotation qui va devenir une fondation, donc on retient la fondation en 2013, qui elle a pour vocation de récupérer les dons, que ce soit des dons en argent de n'importe qui ou aussi des dons en nature, Donc quand je dis
une ferme,
de ferme, voilà. Papy et mamie arrêtent leur carrière d'agriculteur bio, voilà, au fond du Rhône. Ils n'ont pas envie que leurs terres repartent en agriculture conventionnelle avec des traitements chimiques, etc. Et donc ils s'adressent à Terre de Liens en leur disant nous, on n'a pas d'enfants qui veulent reprendre la suite. On aimerait que ça soit toujours géré en agriculture biologique. Nous, on a fait notre vie et on n'a pas forcément envie de s'enrichir plus que ça aujourd'hui. On vous lègue à la Fondation Terre de Liens cette terre.
Pas rare. Aujourd'hui, si vous avez inventé cette fondation, c'est que cette possibilité, elle se faisait.
On a 7 ou 8 fermes aujourd'hui, effectivement, propriété Terre de Liens, suite à une donation, et puis je crois qu'on a une petite vingtaine dans les tuyaux. Donc ça, c'est les paysans qui font ce choix-là, les anciens propriétaires. Et à côté de ça, on peut aussi avoir des collectivités qui pourront, quand ça sera fondation, qui pourront aussi faire le don de terre.
Voilà, parce que ce que tu disais, c'est qu'elles peuvent pas du coup prendre de l'épargne avec la foncière.
Eh ben non, la foncière, c'est une société, on va dire, de droit privé, et donc les collectivités ne peuvent pas prendre... et c'est normal, on va dire, leur part dedans. Quand la fondation sera là, on va pouvoir faire en sorte que des collectivités qui veulent installer des paysans passent par la fondation pour qu'on puisse acheter des terres, garantir qu'elles sont en bio, garantir que ça ira un paysan qui alimentera
la cantine.
Voilà, et on a pas mal de collectivités qui sont intéressées par ce schéma-là. Ouais.
Donc ça se développe et ça prend l'ampleur. Hein.
Ouais, aujourd'hui, à Terre de Liens, on est plutôt en crise de croissance. Croissance, entre guillemets, de développement, on va dire. Parce que il y a beaucoup de demandes, il faut qu'on arrive à répondre tout en perdant pas le fil de ce qu'on voulait faire au départ.
D'accord.
Bon, sur cette tendance quand même bien positive, on va devoir rendre l'antenne et laisser la place au Canu Info et on vous dit à dans 2 semaines.
Merci beaucoup.